Merci Jonathan pour cette lecture de Jean chapitre 10. Avant de continuer, je vous propose une prière. Prions. Merci Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Nous te remercions pour ta révélation qui nous conduit dans la sagesse et dans la vérité. Nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous apprenions ta volonté et comprenions la profondeur de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Les brebis d'élevage sont perpétuellement en danger de mort. Mais pourquoi, vous me demandez? C'est parce qu'elles sont délicieuses à manger. Une brebis d'élevage ne peut rien faire d'autre pour se défendre que de rester près des autres brebis en espérant que l'ennemi mangera sa voisine au lieu d'elle. C'est difficile d'être une brebis parce que sans berger, elle mourrait rapidement. Sans berger, les brebis se perdent facilement et ils sont facilement capturés par des prédateurs. Ils sont perpétuellement en danger de mort. Mais pourquoi? Parce que comme on l'a longtemps supposé, les brebis sont profondément stupides. Je sais qu'il y a des gens attachés aux brebis, peut-être ici aujourd'hui, je ne sais pas, qui disent le contraire, mais je ne suis pas convaincu. Je sais aussi qu'il y a des écologistes et des végétariens qui pensent que cette insulte est méchante. Je suis vraiment désolé. En fait, j'aime les animaux. J'aime manger les animaux. Alors, imaginons que des brebis mangent toute l'herbe qu'il y a dans un espace. Une fois qu'il n'y a plus d'herbe à manger, elles ne savent pas quoi faire. Si elles ont un chef parmi elles qui est un peu intelligent, qui est capable de les conduire, peut-être elles vont traverser la route pour aller manger l'herbe de l'autre côté. Elles s'approchent de la route, elles regardent dans les deux sens. Elle voit un grand camion s'approcher à toute allure et elle traverse quand même et se font renverser par le camion. Les brebis sont des animaux de troupeau. Elles ne réfléchissent pas indépendamment des autres. Elles sont faibles et vulnérables. Leur vie est fragile et ils ont besoin d'un berger. Dans Jean chapitre 10, nous sommes nous-mêmes comparés à des brebis. Désolé, mais c'est dans le texte. Ce n'est pas un compliment, pas du tout. Mais c'est une réalité. Nous sommes faibles et nous sommes perpétuellement en danger. Coincés sur une falaise avec des rochers tranchants en bas et des loups affamés en haut. Un faux pas et notre vie toute mignonne et pollueuse sera terminée. Il y a des bandits et des lions qui se tapissent dans les ténèbres. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est la vie d'un brebis. Bref, Jean chapitre 10 est un texte très riche théologiquement. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, je vais diviser ma prédication en deux parties et prêcher aujourd'hui sur le bon berger et ses œuvres. Et la semaine prochaine, je vais continuer en parlant des dangers qui accablent les brebis. Jésus emploie une métaphore très particulière dans ce texte. Ce n'est pas une métaphore que nous pouvons comprendre facilement aujourd'hui. Un berger, une bergerie, un troupeau, qu'est-ce que ça veut dire? Cette métaphore vient d'une culture et d'une époque très différentes des nôtres. Les brebis étaient conduites par un berger pendant la journée et gardées pendant la nuit dans une cour ou dans un enclos souvent entouré par quelques maisons. Quelquefois, l'étable était une partie même de la maison. Les brebis étaient une source de textiles, une source de nourriture et une source de sacrifice pour le temple. Le travail d'un berger, c'était donc quelque chose de connu pour les Juifs en Palestine au 1er siècle. Dans l'histoire d'Israël, on retrouve ce thème assez souvent. Abel, le fils d'Adam et Ève, était berger, par exemple. On lit dans le texte que la richesse d'Abraham, c'était son grand troupeau. Jacob, il était berger aussi. Et plus tard, Moïse a travaillé en tant que berger après qu'il se soit enfui d'Égypte. David, le grand roi d'Israël, était berger dans sa jeunesse. Et souvent, les rois et les responsables du peuple sont comparés à des bergers dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus emploie cette idée quand il dit « Je suis le bon berger ». Dans l'Église, on fait référence à nos pasteurs et à nos anciens comme étant les bergers de l'Église. Alex a parlé de cette idée la semaine dernière. Le peuple de Dieu est comme un troupeau de brebis sous la direction de Dieu. C'est une métaphore très riche. Aujourd'hui, je voudrais examiner trois thèmes importants dans ce texte. Le bon berger est notre Seigneur, le bon berger est notre Sauveur, et le bon berger est notre soutien. J'ai déjà prêché 12 messages dans cet évangile, et j'ai l'impression de vous apporter une prédication très similaire à chaque fois. Mais j'espère que vous avez commencé à remarquer quels sont les thèmes principaux dans cet évangile. En fait, le message de chaque chapitre est très similaire, sinon identique. Jean a écrit cet évangile afin que vous croyiez. Ça, c'est le but. Que vous croyiez. Chaque passage pose la question de qui est Jésus. Chaque chapitre parle de la double nature de Jésus, l'homme, Dieu. Chaque chapitre montre comment Jésus remplace les institutions et les systèmes de l'Ancien Testament. Et chaque chapitre explique comment Jésus sauve et préserve les élus. Dans Jean chapitre 10, ces thèmes sont très forts. Le bon berger est notre Seigneur. Ce thème est partout dans ce texte. Jésus dit au verset 7 et 9, « Je suis la porte ». Il ajoute au verset 11 et 14 qu'il est le bon berger. Au verset 18, il parle de son autorité. Et la cerise sur le gâteau, on la trouve au verset 30 où Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Toutes ces déclarations de Jésus sont fortes et je voudrais les examiner chacune brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis la porte » Pour comprendre l'idée de la porte, il faut la mettre en contraste avec l'idée des voleurs et des brigands qui viennent pour faire du mal aux brebis. Jésus, en revanche, c'est la sécurité des brebis. Il est leur protection. Il a autorité sur le bien-être de ses brebis. Il les garde, il les protège, il les conduit. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », ça renvoie encore au même thème. C'est peut-être plus fort parce que Jésus ici fait référence au texte messianique dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 23 par exemple, « L'Éternel est le berger qui rassemble le peuple d'Israël. » Il emploie un langage similaire dans Ézéchiel 34. « L'Éternel lui-même est le berger d'Israël, mais il fournira aussi des bergers pour son peuple. » C'est Jésus qui finalement accomplit ce besoin. Il n'est pas juste un super pasteur, il est le bon berger. Encore une fois, il a autorité sur le bien-être de ses brebis. Il les garde, il les protège, il les dirige. Quand vous pensez à un berger, qu'est-ce que vous imaginez? Le stéréotype que ça évoque normalement, c'est celui d'un garçon adolescent très efféminé qui s'assoit sur un rocher pour jouer de la harpe, entouré d'une vingtaine d'agneaux tout mignons, n'est-ce pas? Il sourit, les agneaux sourient, les oiseaux sourient et chantent, et tout le monde est heureux. On voit des images comme ça tout le temps dans les calendriers chrétiens. Ça fait partie des images acceptables dans l'art chrétien, comme l'image d'une biche qui soupire après des courants d'eau, ou un arc-en-ciel au-dessus des montagnes, ou une cascade dans la forêt, ou le coucher de soleil sur la mer, mais je vais arrêter là. Mais, en réalité, c'est quoi le quotidien d'un berger? Quelle est la réalité? C'est un travail difficile. Les brebis ont besoin d'une attention importante et perpétuelle. Le berger est obligé de marcher beaucoup de kilomètres, entouré d'animaux qui sentent mauvais. Les journées sont longues, le salaire n'est pas terrible et l'odeur est très désagréable. Il y a chaque jour des dangers, des brigands, des orages, des prédateurs. Et est-ce que j'ai mentionné la puanteur? Le berger est aussi obligé de porter lui-même les brebis blessées et de retrouver les brebis perdues. C'est un travail physique. Le berger ressemble davantage à un cow-boy, à un John Wayne ou à un Clint Eastwood, qu'à une fillette de 12 ans. Donc, dans ce texte, le berger, c'est quelqu'un qui s'implique dans la vie des brebis. Il a l'autorité sur son troupeau et il protège les brebis. Il arrête les loups, les brigands, les étrangers, les mercenaires et les voleurs. C'est lui le seigneur de son troupeau. C'est lui qui décide. En ce qui concerne Jésus, son autorité vient de son Père. On a déjà vu cette idée dans cet évangile. Et juste au cas où nous ne comprendrions pas sa déclaration, selon laquelle il est le berger d'Israël, Jésus s'assimile avec le Père au verset 30. « C'est moi le Seigneur, affirme Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus prétend être le Fils unique de Dieu. Il prétend être uni avec le Père dans ses actes. Il prétend être Dieu lui-même. Jésus est Seigneur. Mais si le bon berger est Seigneur, ça veut aussi dire qu'il est Sauveur. Ce thème est évident, lui aussi, dans ce texte. Le bon berger connaît ses brebis, et parce qu'il les connaît, ses brebis le connaissent aussi. Le bon berger choisit et appelle ses brebis. Dans les versets 3 à 4, à 5, en fait, nous voyons qu'il les appelle les siennes. Ils sont toutes mélangées dans la même bergerie, mais le bon berger connaît les siennes. Cette idée est réaffirmée au verset 14, 27 et 29. Il connaît ses brebis qui lui ont été données par le Père. Donc il choisit et appelle ses brebis. Mais il ne s'arrête pas là. Il conduit aussi ses brebis. Au verset 9, Jésus agit comme porte. Les brebis entrent, elles sortent et elles trouvent des pâturages. Elles sont protégées dans la bergerie pendant la nuit et elles profitent des pâturages pendant le jour. Est-ce que ça vous fait penser à un autre texte connu? Peut-être le psaume 23 par exemple, qui dit « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le bon berger aime et s'occupe de ses brebis. Il appelle des brebis de partout. Dans les 5 premiers versets, le bon berger appelle des brebis d'Israël. Il appelle ses élus d'Israël, c'est-à-dire des Juifs. Mais on voit au verset 16, et c'est très intéressant, qu'il appelle d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ce sont des brebis païennes, c'est-à-dire des non-Juifs. Jésus les appelle et les ajoute dans sa bergerie. Son salut s'étend au monde. Pour montrer son amour pour ses brebis, le bon berger donne sa vie pour elles. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Même les meilleurs bergers ne donnent pas leur vie pour quelques animaux. Mais Jésus est un berger bizarre. Il est un berger qui a tant aimé ses brebis qu'il a donné sa vie pour qu'elles aient la vie. Ce n'est pas une mort accidentelle ou tragique. Le bon berger donne sa vie volontairement par sa propre autorité, une autorité donnée par le Père. Il y a une raison derrière sa mort. Regardez la fin de verset 17. La résurrection de Jésus n'a pas été improvisée après coup, mais Jésus a donné sa vie afin de la reprendre. Il y a un sens logique et prémédité dans sa mort et dans sa résurrection. Les brebis ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. C'est seulement le bon berger qui peut les sauver. Il y a quelques semaines, Alex et moi et deux autres gars, nous avons gravi une montagne de 3000 mètres dans les Alpes. Et pendant notre randonnée, on a vu un bouquetin juste devant nous, sur l'arête. C'était extraordinaire. J'étais juste derrière Alex et j'ai levé brièvement les yeux et voilà, j'ai vu un gros bouquetin. À ce moment-là, je ne connaissais pas le mot bouquetin, donc j'ai dit « Alex, regarde, il y a un truc ». Il m'a dit « D'accord, j'en ai un truc, ok ». Et j'ai dit « Non, 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 vraiment, il y a un véritable truc là-bas ». Et ce truc était en fait un bouquetin énorme avec des cornes affreusement grosses. Nous avons vu en tout 5 bouquetins ce jour-là. Et saviez-vous qu'un bouquetin, c'était un type de brebis sauvage? Mais ce n'est pas un brebis de mauviette. C'est un paquet de muscles et de cornes qui n'a pas besoin d'un berger. Il y a une raison pour laquelle la Bible nous compare à des brebis et pas à des bouquetins. C'est parce que nous sommes faibles. Nous sommes vulnérables, nous sommes perdus. Nous avons tous besoin du salut offert par Jésus, notre berger. Nous sommes en danger et nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous protéger. Sans berger, nous sommes spirituellement perdus. Alors, le bon berger est notre sauveur, mais il est notre soutien aussi. Qu'est-ce que je veux dire par soutien? Je parle ici de ce qu'on appelle en théologie la persévérance des saints ou la sécurité du croyant. Les versets 28 et 29 présentent un des exemples les plus forts de cette doctrine dans l'Écriture. C'est une doctrine importante dans la tradition protestante. C'est un des 5 points essentiels du calvinisme. Cette doctrine de la persévérance des saints est vraiment liée aux doctrines de l'élection et de la souveraineté de Dieu. Nous avons déjà vu dans ce texte que Jésus a l'autorité sur son troupeau. Il a l'autorité parce qu'il est Dieu. Il a l'autorité parce que le Père la lui a donnée. Il est souverain sur ses brebis et sur leur salut. Nous avons déjà vu ce langage très fort dans cet évangile. Ceux qui l'appellent le suivent. Et ceux qui le suivent sont gardés et protégés. C'est logique, à mon avis, que les élus ne puissent jamais périr. Et c'est logique que personne ne puisse les arracher de la main de Jésus. Si on peut perdre le salut, ça affaiblit l'appel de Jésus. Ça affaiblit la souveraineté de Dieu. Ça dépouille la croix et sa puissance. La doctrine de la persévérance des saints est logique, parce qu'on voit dans ce texte que Jésus a une autorité complète sur le salut de ses brebis. Son salut est parfait et éternel, pas temporaire et capricieux ou fragile. Une brebis qui est appelée par Jésus et qui répond à cet appel est sous la charge du bon berger. Elle est gardée, elle est protégée, elle est nourrie, elle est préservée. Ça, c'est le but de cette métaphore. Un bon berger qui perd ses brebis n'est pas vraiment un bon berger. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il ne peut pas échouer. Le bon berger est le bon berger parce qu'il est bon. Et ce que ce texte dit, je suis le bon berger. Je ne connais pas mes brebis, mais quand je les appelle, j'espère que quelques-unes vont me suivre. Mais elles doivent rester proches de moi parce que si l'étranger ou le voleur arrive, je vais perdre de celles qui traînent la patte. Quand je fais une sieste, le loup va en manger quelques-unes. Mais tant pis, je suis fatigué. Si je suis réveillé et que le loup arrive, je vais l'abattre. Si j'ai mon fusil avec moi. Mais sinon, ou si les loups sont plusieurs, laisse tomber, je m'arrache. Vous me demandez si quelqu'un peut arracher mes brebis de ma main? Oui, c'est fort possible. Après tout, je n'ai que deux mains et ces brebis sont lourdes à porter. Mais cela n'est pas l'attitude de Jésus dans ce texte. Nous sommes entre les mains du bon berger. Nous sommes entre les mains du Seigneur de l'univers. Son plan rédempteur est beaucoup plus fort que nos mauvaises décisions, notre rébellion, nos péchés et notre stupidité en général. Les brebis sont perpétuellement en danger de mort. Mais quand on est sous la charge de Jésus, il n'y a plus rien dont on doit avoir peur. Jésus va sauver ses élus. Avec cette idée, je voudrais terminer en disant trois choses qui s'appliquent à nous, le troupeau. D'abord, vous pouvez vous approcher de Jésus. Si vous êtes brisé dans votre cœur, si vous êtes écrasé par les fardeaux du monde, si vous souffrez dans votre esprit, vous pouvez vous approcher de Jésus. Il est le bon berger qui aime son troupeau. Il vous connaît et il vous aime. Ensuite, le bon berger vous offre quelque chose d'incroyable, un pâturage éternel. Sous la charge de Jésus, vous avez reçu son salut et la promesse d'un pâturage dépourvu de la menace des voleurs, des étrangers, des brigands et des loups. Le bon berger est devenu l'agneau sacrifié pour que ses brebis aient la vie. Donc vous pouvez vous approcher de Jésus, vous pouvez recevoir le salut de Jésus et finalement vous pouvez être sûr que votre salut est sûr. Votre destinée éternelle est entre les mains de celui qui a créé l'univers, qui dirige l'univers et qui a établi son plan rédempteur avant même le commencement du monde. Nous, en tant que brebis, tout seuls, nous sommes perpétuellement en danger. Mais une brebis faible et désarmée, qui est confiée à la charge de Jésus, est en bien meilleure position qu'un bouquetin musclé et agile qui n'a pas de berger. Je vous invite à la prière. Notre bon berger, nous te prions de nous donner la capacité de voir la beauté de cette métaphore pour que nous restions attachés à tes promesses avec une plus grande confiance. Notre Seigneur, nous te remercions de nous avoir appelés à être tes brebis sous ta charge et dans ton amour. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur et notre soutien. Au nom de Jésus, Amen.